des gradins du stade. Donc, c'est bien la preuve que les fans du Gabon n'ont pas encore digéré leur élimination de leur CAN. Bon, ben on s'attend à ce que cela leur passe et qu'ils reviennent applaudir les autres équipes de cette 31e Coupe d'Afrique des Nations, Nico.
Ouais, Timothée Delormaille, envoyé spécial de VOA Afrique au Gabon. Vous restez évidemment avec vous, mobilisable à chaque instant, évidemment. Et on rappelle que de l'autre côté, évidemment, du Gabon, à Franceville actuellement, le match Sénégal-Algérie, les Algériens qui doivent impérativement l'emporter et surtout espérer un faux pas des Tunisiens. On va accueillir notre dernier intervenant ce soir, Amine Birouk, qui suit le Maroc, je le disais, sur cette compétition. Bonsoir, Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Alors Amine, on va évidemment parler avec vous de ce groupe B actuellement. Catastrophe, hein, cette CAN du mondialiste algérien hein, qui malheureusement est au bord de l'élimination. Il faudrait un miracle ce soir. Comment vous expliquez cette déroute algérienne?
Expliquer peut-être par une instabilité technique. Il y a eu Vaïd pendant la Coupe du Monde jusqu'à la Coupe du Monde 2014. Et puis il y a eu trois sélectionneurs en moins de 2 ans. On parle bien évidemment de Gourcuff, de Rajevac et maintenant de Likens. Peut-être aussi le fait que la rigueur a manqué à cette équipe algérienne. Peut-être aussi le fait qu'ils se sont vus trop bons pendant le début de la compétition avec le meilleur joueur du continent, Mahrez. Et puis évidemment, griller un joker face au Zimbabwe, l'adversaire supposé le plus faible, a compromis un peu plus leur tâche, ont compliqué un peu plus leur tâche, d'autant plus que le derby face aux Tunisiens, les Tunisiens qui n'avaient pas démérité face au Sénégal, ont su attendre le bon moment pour pouvoir planter de banderilles et prendre l'ascendant et se retrouver en position de ballotage favorable.
Merci beaucoup Amine Birouk, vous restez avec nous évidemment sur notre antenne. On va prendre tout de suite un premier auditeur qui nous appelle depuis Conakry. Bonsoir. Allô, Bakary, est-ce que vous nous entendez?
C'est Bamako plutôt.
C'est Bamako, oh là là, le 223 par rapport au 224. Carton jaune, Nicolas Pineau, okay. Carton jaune. Bonsoir, Bakary.
Ok, bonsoir.
Alors, évidemment, Bakary, vous attendez la prestation hein, des Aigles hein, dans ce groupe D où le Ghana est déjà qualifié. Comment vous voyez les chances des Aigles du Mali?
Bon, les chances, quand même, sont compliquées davantage. Nous avons quand même nos calculatrices en main. Parce qu'actuellement, le Mali n'a pas son destin quand même en main. Même si le Mali battait, par exemple, gagnait contre l'Égypte, par exemple, il va falloir que l'Égypte aussi batte le Ghana. Donc, il va falloir que le Ghana aussi batte le Ghana. Donc, mathématiquement, le Mali n'a pas son destin en main. Donc, cela complique vraiment les choses.
Merci beaucoup, Bakary, de nous avoir appelé depuis Bamako. On salue tous les Bamakois. On va retrouver Jules Valentin Ngoué à Libreville, que vous retrouvez tous les jours, évidemment, pour son coup de sifflet sur VOA Afrique. Jules Valentin Ngoué, comment vous analysez, évidemment, la belle performance des Sénégalais, un très sérieux premier pays qualifié lors de cette phase de poule de la CAN?
Oui, mais parce que les Sénégalais sont dans une dynamique qui dure. Et depuis les Jeux Olympiques, ils ont le même entraîneur, ils ont reconstitué une nouvelle équipe à partir de ces brillants Olympiques qu'on avait vu à Londres en 2012. Et ils enchaînent les victoires et également sont très sérieux dans le travail, dans l'encadrement. L'environnement général de l'équipe sont professionnels et il n'y a pas de raison qu'ils s'arrêtent dans si bonne route. Je crois que le Sénégal, le grand Sénégal est revenu et même avec beaucoup plus de discipline.
Oui, Jules Valentin Ngoué, merci beaucoup. On parle à présent, évidemment, on reste hein, sur ce match Tunisie-Zimbabwe 0-0. Actuellement, 7 minutes de jeu au stade de l'Amitié. On rappelle que pour le moment, ce sont les Tunisiens hein, qui sont qualifiés. On va revenir avec vous, évidemment, sur ce qui s'est passé hein, sur cette compétition depuis, évidemment, plus d'une semaine de compétition à Libreville. On va revenir, évidemment, sur l'élimination des Panthères. 3 matchs nuls et puis s'en vont. Les Panthères qui font grise mine, éliminés après un nouveau match nul face au Cameroun cette fois. On va écouter le capitaine, évidemment, le joueur emblématique des Gabonais. On va écouter Pierre-Emerick Aubameyang.
On avait tout pour se qualifier, on avait des occasions. Malheureusement, il y a des jours comme ça où ça ne rentre pas. À l'image de ma première occasion, à 2 mètres du but, on a touché le poteau. Le gardien qui fait une parade, on ne sait pas d'où elle sort. Voilà, il nous a manqué peut-être cette petite hargne en plus qui allait faire la différence. On devait commencer le 3, on a commencé un petit peu plus tard. On n'a pas vraiment eu le temps de se préparer. En tout cas, j'ai qu'une chose à dire, je suis vraiment fier de tous les joueurs, de tout le monde, parce que tout le monde a donné le maximum de soi-même. Et on l'a vu, on est monté en puissance. Malheureusement, on n'a pas eu assez de temps pour passer.
Merci beaucoup. C'était évidemment Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais. On va retrouver évidemment Thierry Kambounji, hein, Top Congo FM. Vous vous trouvez évidemment à Port-Gentil. Vous suivez la République démocratique du Congo. Mais quand même évidemment Thierry, un mot hein, sur cette élimination du pays organisateur et finalement ce classement qui n'était pas forcément évident avant le début de la compétition. Burkina premier et Cameroun deuxième. Hein.
Ah oui, hein, le Burkina a surpris après d'abord son nul face au Panthère du Gabon. On connaissait le potentiel des étalons du Burkina Faso. Troisième, il y a deux fois, c'était en 2013 en Afrique du Sud. Et bien là, ils n'ont pas déçu justement. Hein, ils se sont réveillés après deux matchs nuls au moment où il le fallait en dominant. La Guinée-Bissau, l'une des surprises également de cette CAN. Évidemment, c'est une grosse déception ici même à Port-Gentil.
Ouverture du score au stade de l'Amitié. Pardon de vous interrompre, évidemment. Priorité au direct de Thierry Kambounji. Ouverture du score des Aigles de Carthage qui ouvre le score 1-0 face aux Warriors du Zimbabwe. On va voir évidemment le ralenti pour voir le nom du buteur tunisien. Mais pour le moment, évidemment, la Tunisie qui enfonce un peu plus l'Algérie. Les Tunisiens qui mènent pour le moment 1-0 au stade de l'Amitié. Et là, c'est officiel. Hein, les Fennec algériens qui rentreront à la maison si le score en restera là. On reprend évidemment avec vous, Thierry Kambounji. Vous parliez de la belle performance des Burkinabés. Hein.
Je parlais justement de la belle performance des étalons du Burkina Faso qui avait un potentiel que l'on connaissait après les avoir vus lors des deux dernières Coupes d'Afrique des Nations de football. Là, après deux matchs nuls, ils se sont réveillés à temps en infligeant un 2-0 à la surprenante équipe de la Guinée-Bissau et en s'adjugeant donc la première place de ce groupe. C'est une grosse surprise parce qu'il y avait le pays organisateur qui a déçu. Hein, Pierre-Emerick Aubameyang a tout résumé. Hein, il a manqué, au-delà de tout, il a manqué peut-être une bonne préparation pour cette grande fête que le Gabon devait organiser. L'entraîneur qui arrive à un mois de la CAN, qui ne parle pas la langue et qui devait s'habituer à l'environnement, c'était très très compliqué pour le Gabon d'aller plus loin avec dans ces circonstances. Bref, le Burkina Faso a démontré tout son potentiel avec les frères Traoré qu'il faudrait suivre de très près. Et voilà, félicitations à eux et on attend des très belles affiches en quart de finale avec le Burkina Faso et le Cameroun qui se sont qualifiés dans ce groupe A.
Et évidemment, priorité au direct à nouveau. Ouverture du score, cette fois-ci à Franceville. Les Algériens qui ouvrent le score par Slimani. 1-0. Mais pour le moment, malheureusement, cette victoire ne suffirait pas aux Algériens. Puisqu'on le rappelle, au stade de l'Amitié à Libreville, ce sont les Tunisiens qui mènent 1-0 et qui, du coup, empochent leur billet pour les quarts de finale et qui enterrent tous les espoirs des Algériens. On va retrouver Amine Birouk, évidemment, pour parler de cette Tunisie qui, finalement, sur ces 11 premières minutes ressemble montrer un visage conquérant. Hein.
Un visage qu'ils avaient déjà montré lors de leur seul faux pas de cette CAN face au Sénégal, parce que pendant les 10 premières minutes avant le pénalty provoqué par Abdennour, les Tunisiens s'étaient montrés bien fringants, et même après avoir encaissé le deuxième but sur corner, sur une véritable boulette du gardien Metlouti, la deuxième étape de la Tunisie a été franchement pleine de panache avec de très nombreuses occasions de scorer. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu une sélection tunisienne aussi conquérante, aussi séduisante.
Voilà, on a perdu Amine Birouk. On va essayer de le retrouver. Évidemment, ce sont les aléas du direct. On va partir au Bénin, retrouver Abdelaziz Harouna. Bonsoir. Alors évidemment, vous suivez cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous, évidemment, les écureuils ne sont pas présents. Quelle est votre équipe favorite sur cette compétition?
Mon équipe favorite est le Sénégal.
Ouais, le Sénégal, premier pays qualifié avec 6 points, pour le moment battu 1-0 par l'Algérie, mais nous n'en sommes qu'au début du match. Qu'est-ce qui vous plaît chez les Lions de la Teranga?
Actuellement, quand on analyse les matchs de la, de la Lyon, de la Teranga, on constate que c'est une équipe très très jeune, une équipe qui a de l'envie, de l'enthousiasme, une équipe qui a envie d'aller jusqu'au bout. Ouais, c'est ça.
Ouais, merci beaucoup hein, de nous avoir appelé depuis le Bénin. On va retrouver évidemment Jules Valentin Gouet. Jules Valentin, vous en parliez sur notre antenne, évidemment. Hein, le Gabon, grosse déception. Et peut-être c'est intéressant, hein, les Lions indomptables hein, qui ont frôlé la correction face à la Guinée-Bissau. Et finalement, les Lions indomptables hein, qui sont bien là, qui sont présents pour ce quart de finale.
Oui, bien sûr. Et les Lions indomptables qui sont avec une équipe rénovée à 90% pratiquement et qui, ma foi, a commencé une préparation qui montait en puissance au fur et à mesure. Il ne faut pas oublier que cette équipe a battu la RDC, a battu également le Gabon dans les quatre derniers mois. Et la RDC, c'est il y a quelques semaines. Et donc, finalement, en venant ici, elle avait quand même certains repères, certaines certitudes. Et après le raté du premier match où elle aurait dû gagner et face au Burkina Faso, et quand on voit le nombre d'occasions de but engrangées en première mi-temps, bon, l'équipe s'est bien reprise en deuxième mi-temps contre la Guinée-Bissau. Et je crois que c'est une équipe commando qui s'est présentée devant la sélection gabonaise. Et ma foi, elle a eu l'essentiel, c'est-à-dire la qualification. Je crois que c'est ce genre d'équipe qui devient très dangereuse au fur et à mesure que la compétition avance, parce qu'elle ne se présente pas en favori, mais en outsider.
Jules Valentin Gouet, qu'on retrouve évidemment tous les jours sur VOA Afrique avec son fameux coup de sifflet. VOA Afrique, c'est Sporama comme tous les lundis soirs. Priorité au direct, on retrouve à Libreville, au Stade de l'Amitié, l'envoyé spécial de VOA Afrique, Timothée Donogmaï. Timothée, les Aigles de Carthage ont donc ouvert le score et après un quart d'heure de jeu, pour le moment, 1-0, une partie animée. Hein.
1-0, Nico, c'est sur un corner qui a été renvoyé par la défense zimbabwéenne que le 23 tunisien Naïm a d'un tir tendu, inscrit le but sur la gauche du gardien zimbabwéen, 1-0 dans cette partie très engagée entre les Aigles de Carthage et les Warriors zimbabwéens ici à Libreville, Nico.
Et on rappelle évidemment, merci Timothée, on rappelle évidemment que de l'autre côté à Franceville, le Sénégal qui est battu pour le moment 1-0 par l'Algérie, les Algériens, une victoire pour l'honneur pour le moment, mais insuffisante évidemment en raison du score de nos amis tunisiens qui dominent pour le moment 1-0 cette équipe du Zimbabwe. Allez messieurs, on va parler du groupe C évidemment, puisque le tenant du titre, la Côte d'Ivoire, n'a toujours pas son billet en poche. La Côte d'Ivoire qui affronte le Maroc et qui affronte surtout Hervé Renard, le même sélectionneur qui lui avait offert le titre évidemment en 2015. On va suivre ça dans quelques instants, mais on va écouter d'abord Dussuyer, Michel Dussuyer, qui nous parle des espoirs des Ivoiriens.
Oui, demain, comme j'ai dit aux joueurs, on joue un huitième de finale. Donc on est tous conscients de cette échéance. On est tous conscients que c'est un match couperet, comme les matchs qui vont suivre après derrière. Ce sont des matchs couperet, on est conscients de ça. Je pense qu'on a aussi du répondant, on a des qualités à faire valoir. C'est vrai qu'on a démarré doucement dans ce tournoi. J'ai des signes positifs parce qu'on est monté en puissance au fur et à mesure du temps de jeu. Donc il faut qu'on s'appuie sur nos forces avec notre mental, en ajoutant le côté mental, parce que demain ce sera vraiment déterminant.
Voilà, c'était Michel Dussuyer, le sélectionneur des éléphants. On va aller de l'autre côté, hein, chez les Lions de l'Atlas. On va écouter évidemment Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc.
C'est l'état d'esprit du groupe qui est associé à la qualité des joueurs, bien sûr, fait qu'on peut, aller très loin dans une compétition. L'état d'esprit, ça regroupe solidarité, ne jamais baisser les bras lorsque vous avez des moments un petit peu plus difficiles. Voilà, c'est la clé de la réussite, parce que dans une CAN, il y a toujours des moments un peu plus difficiles que d'autres. On le voit pour toutes les équipes, donc il faut être soudé. Les personnes qui se dispersent en pensant individuellement, il faut toujours avoir une pensée collective. Enfin, c'est ma façon de voir comment on doit vivre un groupe pendant une compétition.
Voilà Hervé Renard, hein, le sélectionneur des Marocains. Côte d'Ivoire-Maroc, évidemment, on retrouve Amine Birou qui va suivre ce match. Et évidemment, hein, c'est évidemment une grande rencontre, une affiche, évidemment. Malheur aux vaincus. Amine Birouk, dans quel état d'esprit finalement se trouvent les Marocains? C'est du 50-50 selon vous sur ce match?
C'est du 50-50, d'autant plus que si Hervé Renard a débarqué au Gabon sans trop de certitude, vu le nombre de forfaits, rappel, Amrabat, Boufal, Panane ou encore Belanda, aujourd'hui il a découvert un esprit de corps, un groupe, il a su instiller, impulser une pensée collective avec une équipe assez forte dans les duels, avec un pressing de tous les instants, avec une disponibilité, un sens du collectif, des choses qui avaient échappé à l'équipe du Maroc depuis fort longtemps. On parlait de zizanie dans le groupe, on parlait de fractures entre néerlandophones, francophones. Aujourd'hui, on marche tous dans la même direction. Et a priori, Hervé Renard, qui connaît un peu plus les Ivoiriens, pourrait trouver la bonne formule, la bonne recette pour pouvoir permettre au Maroc enfin de passer le cap du premier tour, ce qui n'était plus arrivé depuis l'édition 2004. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire m'a semblé assez passive face au Togo, un peu plus conquérante en deuxième mi-temps face à la RDC, et elle jouera son va-tout demain. Et on verra surtout lequel des champions d'Afrique sera au tapis, est-ce l'entraîneur ou la sélection.
Et oui, évidemment. Et de l'autre côté, on va suivre ça, évidemment, avec intérêt à Port-Gentil, la République démocratique du Congo, qui affronte le Togo. La République démocratique du Congo, hein, qui a évidemment un petit avantage, hein, grâce à sa victoire. Thierry Kambounji, vous êtes évidemment à Port-Gentil. Vous suivez dans quel état d'esprit se trouvent les Congolais qui vont affronter les Togolais, entraînés par un certain, évidemment, Claude Leroy, qui connaît bien les Léopards. Hein.
Dans un bel état d'esprit, les Léopards ont eu leur dernière séance d'entraînement tout à l'heure au terrain annexe du stade de Port-Gentil avant la conférence de presse d'avant-match au cours de laquelle Florent Ibenga a déclaré « C'est vrai qu'il nous suffit d'un nul pour nous qualifier, mais nous devons absolument nous imposer pour nous épargner toute surprise car dans ce groupe, rien n'est encore fait. Hein. Toutes les équipes ont la possibilité de se qualifier. Donc les Léopards vont monter demain sur le terrain avec la détermination de battre les éperviers du Togo, alors que Claude Leroy l'a dit également qu'eux ont la possibilité de l'emporter. Il a vu et revu les Léopards de la République démocratique du Congo et il dispose des joueurs nécessaires pour renverser Florent Ibenga. Florent Ibenga qui l'avait sorti en quart de finale avec les Diables Rouges du Congo-Brazzaville, rappelez-vous lors de la précédente édition. Claude Leroy qui connaît bien la RDC et qui a une revanche à prendre face à Florent Ibenga.
Merci beaucoup Thierry Kambounji. Jules Valentin Gouet, on va revenir avec vous évidemment. Ce champion en titre, hein, ces Ivoiriens, pas vraiment en jambes. Amine Birouk le disait, un peu passif finalement. Ça ne fait pas forcément pour le moment rêver du côté d'Abidjan, ce que nous offrent les éléphants.
Oui, bien sûr. Une équipe qui a un peu changé par rapport à celle qui a gagné la Coupe des Nations, mais et qui a aussi eu le malheur de commencer peut-être par un adversaire très défensif qui l'a considérablement gêné sur le plan tactique dans les contres. Et donc, le démarrage, c'est important pour ce genre de compétition. La Côte d'Ivoire a eu deux matchs nuls et finalement, ça risque de lui porter préjudice dans une rencontre où elle va se retrouver face à son ancien entraîneur. On rappelle que le Gabon a eu la même configuration en 2012 ici avec Gires qui avait éliminé le Gabon et même cette année avec Duarte qui savait à qui il avait affaire. Donc la Côte d'Ivoire peut se retrouver dans la même situation. C'est un élément inquiétant en plus.
Et le but, merci beaucoup Jules-Valentin Gouet. Deuxième but, les Tunisiens qui déroulent évidemment à Libreville au Stade de l'Amitié. À peu près 20 minutes de jeu. Le deuxième but pour les Tunisiens. Il me semble que c'est Msahi qui a inscrit ce deuxième but. 2-0, on le rappelle pour le moment. La Tunisie qui se qualifie grâce à cette victoire qui se profile. 2-0, c'est le tarif à peu près. On se souvient que le Sénégal s'était imposé après un quart d'heure face au Zimbabwe. Zimbabwe, eh bien pour le moment, les Tunisiens qui accomplissent la même opération. 1-0 après 5 minutes de jeu et maintenant le deuxième but après 20 minutes de jeu au stade de l'Amitié à Libreville. Évidemment, la joie du côté des Aigles de Carthage. On fait grise mine du côté des Fennecs algériens à Franceville hein, qui mène 1-0. On retrouve Timothée Donormail, l'envoyé spécial de VOA Afrique à Libreville. Timothée, les Aigles de Carthage qui déroulent. Hein.
Alors Nico, il y a moins d'une minute, les Aigles sur une action collective ont inscrit leur second but par Youssef Sakni. Les Aigles mènent donc 2-0 ici au stade de l'Amitié de Libreville. Les Aigles qui, il faut le dire, dominent ce match. Ils sont sur presque toutes les balles. Ils se sont donné une bonne option pour l'accès en quart de finale, Nico.
Merci beaucoup. Hein, et je corrige, hein, c'est Sakni qui a inscrit ce second but. Évidemment, pour le moment, on le rappelle, la Tunisie qui se qualifie haut la main pour les quarts de finale et qui enterre les espoirs des Algériens. On va retourner vers Thierry Kambundji. Thierry Kambundji, on parlait hein, peut-être de la RDC face au Togo, mais vous qui avez vu évoluer la Côte d'Ivoire, qui avez vu évoluer les Marocains, quel est votre sentiment hein, sur cette rencontre qui s'annonce entre Hervé Renard et ses anciens poulains ivoiriens?
À mon avis, c'est la vraie finale du groupe C. C'est entre ces deux formations. C'est vrai que la Côte d'Ivoire, en tant que championne en titre, et avec la deuxième période qu'elle a produite face aux Léopards de la République démocratique du Congo, à le moral. Pareil pour les hommes d'Hervé Renard, qui, après avoir perdu sans pour autant démériter face aux Léopards de la République démocratique du Congo, ils ont perdu arme à la main. Ils ont dominé quasiment l'ensemble du match. Mais ils ont été maladroits et inefficaces. Là, ils se sont ressaisis face aux éperviers du Togo en l'emportant 3-1. C'est une vraie finale, mais à mon avis, les Ivoiriens, au plan mental, avec beaucoup de cadres de la génération qui a remporté la CAN en 2015, et surtout la force physique, la détermination, on va dire, de cette équipe ivoirienne, la Côte d'Ivoire, pas légèrement, à mon avis, favorite face à la jeune formation marocaine. Hervé Renard rappelait l'immaturité de...
Et 3-0 Thierry Kambundji, 3-0 à Libreville. Ah non, le but est refusé pour un hors-jeu. Pardon, le but est refusé pour un hors-jeu, évidemment. Mais les Tunisiens qui continuent de dérouler. Vous l'avez dit, Thierry Kambundji, la finale de ce groupe demain. On continuera à suivre ça sur VOA Afrique. Voilà, 2-0, presque 3-0, je le disais, pour les Tunisiens qui, pour le moment, se baladent à Libreville, au stade de l'Amitié. On rappelle 1-0 pour les Algériens face aux Sénégalais à Franceville, toujours pour le groupe B. On va parler du groupe D, messieurs. Le groupe D avec le Ghana en position de force, Jules-Valentin Ngoué. Le Ghana, hein, déjà qualifié, évidemment, grâce à ses deux victoires. Les Black Stars, hein, qui, pour le moment, font le métier dans ce groupe D. Hein.
Une équipe qui, avec celle du Burkina Faso, nous présente pratiquement bien assise, qui est complète. Ce n'est pas une équipe en construction. Et ma foi, elle a bien démarré la compétition. Donc, il faudra compter une fois de plus avec le Ghana, qui a en plus la profondeur du banc.
Merci beaucoup, Jules Valentin Ngoué. On va prendre la direction de Franceville. On va retrouver Amdinsi qui suit ce match Sénégal-Algérie. Amdinsi, pour le moment, les Fennecs qui mènent 1-0. Ce sera une victoire pour l'honneur. Hein.
Tout à fait, Nicolas Pilon. Bienvenue au stade de Franceville. Surtout cette troisième et dernière journée de cette poule B. Retenez que c'est l'Algérie qui mène depuis la 10e minute, but de Slimani, et que les Sénégalais, comme je l'avais annoncé, ont mis aujourd'hui une équipe bis hein, parce que Aliou Cissé a fait vraiment tourner l'effectif sur les 11 joueurs qui avaient joué contre le Zimbabwe. Seul Karamouk a tenu sa place, mais c'est l'Algérie qui tient le bon bout, qui mène par le meilleur Mahrez. Le début, non, heureusement, Karamouk est là. Voilà, les Algériens qui mènent, mais ils n'ont pas le destin en main. Ils doivent gagner et c'était une défaite de la Tunisie. Nicolas ouais. Pino.
Merci beaucoup à Amdinsi hein, qui était en direct de Franceville. On le voit pour le moment. Hein. Évidemment, dans ce groupe B, le Sénégal et la Tunisie qui seraient évidemment qualifiés. On va retourner sur le groupe D, peut-être parler de l'Égypte avec vous, Amine Birouk. Les pharaons d'Égypte hein, qui signaient leur retour après leur absence, après 3 éditions de la CAN. Que pensez-vous de ces pharaons, évidemment, dans ce groupe D qui était à leur portée, mais pour le moment, pas de qualification déjà acquise sur le terrain hein.
pas de qualification acquis sur le terrain. Une victoire au forceps devant l'Ouganda avec un but inscrit à la 89e minute. Mais quel régal de voir Mohamed Salah devenir un leader, tenter une feinte de frappe, servir au cordon et coéquipier. L'Égypte, c'est du solide. On l'a vu lors des éliminatoires de la Coupe du Monde et ça promet mercredi avec un Égypte-Ghana qui pourrait déterminer le vainqueur de ce groupe D. L'équipe qui restera forcément à Port-Gentil pour son quart de finale. Quoique cela ne me semble pas être un avantage dans la mesure où la pelouse de Port-Gentil est peut-être la plus exécrable, la moins praticable des quatre pelouses de cette Coupe d'Afrique des Nations. L'Égypte, c'est de la rigueur, c'est l'expérience des joueurs d'El Ahly, du Zamalek, c'est une nouvelle génération qui arrive au pouvoir, et puis quelques anciens comme Al-Hadari, 44 ans, le gardien de but, inamovible, c'est comme quelques cadres qui sont là pour encadrer, et puis un sélectionneur qui découvre les joutes africaines, Hector Cooper, mais qui a un grand vécu européen derrière lui.
Merci beaucoup. Alors Thierry Kambundi, vous, pour les Congolais, qui souhaiteriez-vous affronter, Égyptien, Malien ou Ghanéen?
Écoutez Nicolas, la dernière confrontation entre Congolais et Égyptiens, c'était en quart de finale de la CAN 2006, organisée en Égypte, et les Congolais avaient ramassé 4 buts contre cette équipe égyptienne qui avait remporté par la suite la CAN chez elle face à la Côte d'Ivoire en finale. Donc je préfère encore le Ghana qu'on a eu à affronter lors de la CAN 2013 en Afrique du Sud et qu'on a accroché par 2 buts partout, plutôt que l'Égypte, dont je loue d'ailleurs la présentation de mon confrère tout à l'heure. C'est une équipe qui fait peur avec un Mohamed Salah qui est en très très grande forme.
Merci beaucoup Thierry Kambundi. Ainsi va s'achever ce Sporama spécial Cannes. On va remercier à Libreville Jules Valentin Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas. Et à très bientôt.
On va faire un coucou également à Amine Birouk qui suit pour nous évidemment le match Côte d'Ivoire-Maroc demain. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va faire un coucou également à Port-Gentil. Thierry Kambundi, Top Congo FM est sur le terrain. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Un grand merci évidemment à ceux qui étaient sur le banc de touche pour prendre vos appels. Fred Nerkayemit et Georges Léonard Sagnot. Nicolas Pineau à la présentation. Excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.